Mais vous avez bien fait. Veillez sur moi comme des anges, justement. Donc, je reprends. Donc, oui, je disais, l'Évangile, quand il parle de ça, il parle, on a l'impression qu'il parle de quelqu'un de physique. En vérité, si vous regardez bien l'Évangile de la tentation de Jésus, il dit pas, il dit Satan. Satan a apparu. Mais l'apparition, vous voyez, même quand on a une pensée, apparaît à nous, n'est-ce pas? Et on pourrait dire, elle m'a apparu comme une personne, mais ce n'est pas que Jésus a vu Satan, c'est qu'il a fait expérience, et vous vous rappelez les tentations, c'est très intéressant, nous, bientôt nous allons les lire parce qu'on va commencer le carême, c'est très intéressant. Jésus, c'est comme s'il voyait Satan, mais c'était des pensées. La pensée de tout posséder, de tout. De, il y a les trois tentations dont je ne me rappelle plus l'objet, mais vous lirez vous-même. Mais disons, il y a la question du pouvoir, il y a la question de la possession, il y a la question de, d'être comme Dieu, voilà, il y a, qui, sont en quoi, qui grandissent. Mais ça, ça peut arriver à nous aussi. C'est-à-dire, nous aussi, nous pouvons nous penser comme Dieu. Nous aussi, nous pouvons penser, tiens, je peux tout faire, j'ai le pouvoir sur tout. Donc, Jésus est confronté comme nous, c'est ça que veut dire l'Évangile, avec cette imagination mauvaise, avec ces pensées mauvaises, avec ces désirs mauvais. J'espère, je vous le dis avec beaucoup d'humour et de fraternité, j'espère que vous fassiez de temps en temps l'expérience d'être tenté. Pas, je dis, attention, je ne vous souhaite pas ça, parce qu'on dit bien, ne nous soumets pas, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous soumets pas à la tentation. Mais nous sommes confrontés. Si notre Père a gardé ça, ça veut dire que ça fait partie de notre constitution humaine. Vouloir posséder, vouloir avoir, voilà, avoir une emprise sur l'autre, voyez, tout ça existe en nous. Il faut que vous en, j'espère que vous en soyez conscients. Et justement, Jésus est venu nous libérer de ça par son évangile. L'évangile, la bonne nouvelle annoncée par Jésus, est là pour nous dire, tu es capable, toi, homme, créé par Dieu, de prendre les distances par rapport à ça. Vous voyez? D'où, alors je reviens, d'où, entre guillemets, la mise en scène, ou disons la liturgie des exorcismes. Ce n'est pas pour chasser un démon encore en chair et os, c'est pour permettre aux catéchumènes de sonder en lui-même quels sont ses vrais désirs. Et donc, par la prière de l'Église, d'être, entre guillemets, vous comprenez bien, mais d'en être libéré, ou plutôt d'apprendre à être libre. C'est pas une formule, ce ne sont pas des formules magiques. Ce ne sont pas des formules magiques. C'est une prière de l'Église pour le catéchumène, pour qu'il puisse apprendre à être chrétien. Est-ce que j'ai répondu, Ariane? Ah oui, non, il y avait une autre question, mais il y a aussi la question des pratiques, effectivement, qui peuvent convoquer le démon. Là aussi, vous voyez, là, c'est, comme dit la phrase, c'est jouer avec le feu. C'est-à-dire que plus vous en faites expérience, plus j'alimente mon imagination par rapport à un désir, plus je cours le risque de me faire habiter par ce désir, d'en être esclave. Ceux qui font de la publicité le savent bien, hein? Ceux qui vendent dans les magasins le savent bien. Plus j'alimente le désir d'acheter, et plus je risque d'acheter. Vous voyez? C'est un exemple. Mais
de posséder.
de posséder ou d'avoir, d'opprimer l'autre, d'en être jaloux. Vous voyez, la jalousie peut arriver jusqu'à une dimension presque démoniaque. Parce que je veux le mal de l'autre, ou je veux l'exclure. Et donc, je reviens, et donc, effectivement, ces pratiques existent, il faut le savoir. Mais, justement, est-ce que c'est, comment dire, c'est bien, est-ce que ça fait partie du message chrétien? Non, je n'ai pas besoin de ces pratiques pour être chrétien. Et si je les pratique, je risque d'être esclave de ces pratiques. Et donc, entre guillemets, d'être esclave du démon, si je invoque le démon. Hein. Mais attention, je le répète, le démon, Satan, ne peut rien contre nous. Depuis que le Christ nous a sauvés, le démon ne peut rien contre nous. Il peut nous conduire par l'imagination à faire des actes mauvais, mais il ne peut rien contre nous. Il ne peut pas nous toucher. Vous comprenez ça?
Mon père, est-ce que
oui.
Je peux vous interrompre une minute?
Oui.
J'ai dans mon entourage quelqu'un qui, dit-il...
Ah, je pensais que vous aviez vu le démon. Non.
Non. Et a un don. C'est un don de sourcier.
Oui.
Mais tout son entourage, même religieux, lui dit ne le fais pas fructifier. On ne sait pas d'où il vient. C'est peut-être démoniaque.
Ah oui. Bon, ça, je pense que c'est trop poussé trop loin, parce que ça fait partie de la des traditions culturelles qui immergent dans les pratiques les plus anciennes.
Il y a quoi,
quelqu'un
ça
qui parle. Je sais pas. C'est le démon peut-être. J'essaie de vous faire rire. Non, il y a quelqu'un qui parle là, effectivement.
Ah non, c'est votre enregistrement qui repasse.
Mais c'est qui a mis l'enregistrement? N'écoutez pas mon enregistrement. Peut-être.
Ah. Ou pas tout de suite, disons.
Pas tout de suite, disons, oui, c'est ça.
Est-ce que ça fait.
Ah là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça marche.
Message chrétien. Non, j'ai pas
vu. Oh là là, c'est embêtant ça.
Oui, je crois que c'est Solange. Ah bon? Oui, parce que le carré de Solange s'allume quand ça parle. Ah bon?
Et si je les pratique, j'arrive.
Non, Solange.
Peut-être enlever l'audio de Solange.
Est-ce que vous pouvez. Mais Solange est coupé le micro.
Vous
pouvez
couper les audios de tout le monde.
Est-ce que vous essayez de couper le micro?
Et vous, moi vous aussi. Pouvez faire, frère Isaiah, vous pouvez couper le micro de
oui.
Solange.
Mais il est coupé.
Non.
Ah non?
Non. Il faut que vous pouvez couper les audios de tout le monde en tant qu'administrateur.
Ah. Là, on n'entend plus.
Non, on n'entend plus.
Ça marche. Ma voix dédoublée, presque démoniaque, est partie. Donc, je reprends le sourcier. Ça remonte aux pratiques les plus anciennes. Et je trouve qu'il y a quelque chose de la sagesse populaire. Vous voyez, il ne faudrait pas démoniser les sourciers, les pauvres. C'est-à-dire, il y a quelque chose de bon là-dedans. L'important, effectivement, c'est d'employer ce don qu'on a. Vous savez, je suis sûr, hein, même je suis convaincu, il y a des gens qui sont beaucoup plus, comment dire, qui sont sensitifs, qui comprennent les choses avant nous. Ça existe, hein, mais il ne faut pas non plus en faire, voilà, il faut, c'est un don.
Et alors moi, je lui faisais faire la différence entre le pouvoir et le don. S'il a du pouvoir sur les autres, alors ça devient démoniaque.
Bon, c'est magnifique, Évéline. Vous avez 17 sur 17 aussi. Non, je veux dire, c'est une bonne réponse. Si mon don, je l'utilise pour avoir un pouvoir, ça c'est démoniaque. C'est antichrétien, c'est pas chrétien. Vous voyez?
Oui.
C'est ce que le démon propose à Jésus.
Voilà, exactement. Alors,
et Jésus le repousse.
Hein? Vous avez parlé. Voilà. Attends, je mets mon nez parce que.
Voilà.
Mais juste donc, pour excusez-moi, Emmanuel.
C'est Emmanuel.
Continuer là-dessus. Le père Verlaine, par exemple, lui considère que lui, il rejette un peu tout ce qui est yoga, à peu près tout, voilà, en disant que finalement, c'est pas les gens peuvent être de bonne volonté, mais que ça va au-delà. C'est-à-dire que dans des soignants qui vont utiliser des méthodes, lui, je crois même parle du yoga, mais il y a plein d'autres choses un peu.
Oui, à la limite entre le spirit.
Bon, voilà, plein de choses. Lui, il dit, et ça me pose des questions en fait, que c'est pas. Par exemple, lui, il prend sa propre expérience où il disait que, vous savez, il avait été en Inde, vous connaissez.
Oui, oui. Père,
comme il avait été en Inde, etc., il avait appris à comment on appelle ça, à être en lévitation et compagnie. Et après, il est revenu en France, il s'est mis avec des chrétiens, enfin en Europe. Il était avec des chrétiens et puis il avait le pouvoir justement de guérir des gens, etc. Mais il le faisait vraiment en faisant son chapelet chaque jour, vraiment en ayant l'impression en tout cas de le faire pour les autres, etc. Et après, bon voilà, je vous passe l'histoire, mais en tout cas ce qu'il disait, c'est qu'on lui avait dit que ça allait au-delà de ce qu'il faisait, enfin en fait que c'était pas, même s'il n'avait pas une mauvaise volonté derrière, ça passait quand même en lui de faire des choses.
Bon, effectivement, je pense que cela, Emmanuel, il faut le mettre dans le contexte de l'expérience du père Verlaine, ça s'appelle, non ? C'est son expérience à lui, c'est-à-dire que lui, il a poussé très loin toutes ces expériences. C'est comme si nous poussions loin toutes ces choses-là. Moi, je dis toujours, le juste milieu, comme on dit, est le meilleur, donc il ne faut pas nous chercher des choses comme ça. Je ne peux pas, entre guillemets, personnellement, je pense, je ne pratique pas le yoga. Mais j'ai un grand respect, je peux même dire que Gandhi m'a converti à cause de ses écrits. J'ai un grand respect pour Gandhi. Gandhi pratiquait le yoga, pourtant c'est une personne, un homme de Dieu. Donc je ne peux pas penser en général que le yoga soit en lui-même mauvais. C'est la manière peut-être où je le pratique et comment je peux pousser plus loin des choses comme ça, effectivement. C'est comme celles que les pratiques dont parlait Ariane, c'est-à-dire... Puis, je n'ai pas besoin, moi, de faire un truc, de demander à un autre de me parler de l'autre tombe. L'Évangile nous le dit, hein, pas besoin. Donc, il y a des pratiques, je pense qu'en tant que chrétien, on n'a pas besoin de faire. Voilà, tout simplement.
Père Isaïa.
Oui.
Alors, moi, c'est difficile de faire la part des choses entre... ce qui vient vraiment de Satan, l'esprit mauvais extérieur à nous en réalité, et les mauvais penchants que nous produisons
seuls,
et que peut-être on auto-alimente.
Oui.
Il intervient quand, le Satan? Est-ce qu'il intervient le premier ou est-ce que...
Je comprends. Je comprends votre question, Michel. Elle est très intéressante. Parce que sinon, effectivement, vous dites, on peut penser que toute pensée risque d'être mauvaise, entre guillemets. Hein. Non, je ne pense pas qu'il ne faut, faut pas en arriver là. Hein. Je pense que il ne faut pas non plus chercher le démon partout, vous voyez. Je pense qu'il faut, de manière très juste, discerner. Et je vous fais comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Si une pensée ou un désir m'amène trop loin, vous voyez, si, comme on disait, me rend possesseur ou qui me fait écraser l'autre, vous voyez, si je l'utilise pour écraser l'autre, tout ça, ce n'est pas évangélique. Hein? Donc, du coup, justement, pourquoi le rituel? Parce que c'est un discernement que d'autres font sur moi. Vous voyez, c'est important ça. Parce que sinon, je devais le faire que pour moi, parfois c'est difficile. Donc, du coup, même la pratique qu'on a parfois de demander un conseil spirituel à quelqu'un, vous voyez ? Ça, c'est important en christianisme, parce que le christianisme n'est pas une religion d'individu, c'est une religion d'un corps. Et donc, le fait de s'entraider, hein, ça peut être important. Et le discernement est important. Donc, il ne faut pas, voilà, ce que je veux dire, il ne faut pas vivre dans une psychologie ou une psychose du mal ou du démon partout. Non, il faut être des bons chrétiens. Je peux être confronté dans ma vie parfois avec des désirs entre mauvais. Mais effectivement, ils sont vraiment mauvais et viennent de Satan quand ils me rendent esclave de ça. Quand je n'ai plus la liberté de dire non. Vous entendez ça?
Oui, tout à fait.
Et c'est là où l'Eucharistie peut nous aider.
Voilà, pas que l'Eucharistie, la pratique ecclésiale,
oui.
C'est-à-dire rencontrer des chrétiens, parler avec eux, partager les sacrements, bien sûr, mais d'où le cours que nous sommes en train de faire. Hein? Voilà. Est-ce qu'Ariane, ça va?
Elle est partie.
Non, non, elle est là.
J'avais coupé mon micro. Oui, oui, merci.
Malheureusement, si le groupe il y avait, je n'ai pas pu l'enregistrer au début. Mais bon, vous avez pris des notes.
Oui.
Excusez-moi, j'avais oublié, mais grâce à Ange Anaïs, j'ai réussi.
Alors moi, à propos du diable, j'ai un livre à vous conseiller, pardon.
Et puis nous fermons la parenthèse. Hein.
Tactique du diable de Lévis. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est sur...
Non, je ne connais
c'est
pas.
C'est juste un livre magique, magique. Tactique du diable, c'est la lettre d'un vétéran de la tentation à un novice de la tentation qui essaye de tenter les humains que nous sommes. C'est juste un moyen, je trouve, incroyable de voir quand même que l'esprit malin peut se glisser là où on ne l'attend pas du tout.
C'est un roman?
Je ne sais pas si vous voyez qui était Lévy, c'était ceux qui ont écrit dans les années entre deux guerres, c'était tous ces mouvements.
Je ne vois pas, non.
Mais je vous promets, essayez de le lire. Il faut le lire au moins une fois dans sa vie.
Tactique du diable.
Lévis.
Oui. C'est je ne me rappelle plus de son prénom. Lévis, Lewis. Tactique du diable. Mais c'est un grand, grand classique. Hein.
C'est pas lui qui a fait... vous savez, oui. Alice au Pays des Merveilles.
C'est pas celui-là. On va dire son cousin Germain, peut-être, parce qu'on est quand même sur toute une bande d'anglais. Bon, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je vous promets que c'est pas de l'eau plate, mais ça démystifie peut-être aussi un peu.
D'accord. De toute manière, je vous le répète, par le baptême et par la création de Dieu pour nous, c'est-à-dire le fait que nous sommes créés par Dieu, nous ne devons pas craindre le mal. Ça, c'est très, très important. Partez toujours de cette idée. Remerciez toujours Dieu de nous avoir créés et d'être aussi beau et d'être aussi capable de faire le bien. Ça, c'est le plus important. Après, tout ce que nous avons dit, c'est important aussi. C'est-à-dire, ça arrive. Et il faut discerner, justement. Il ne faut pas le faire seul. On ferme la parenthèse ?
Oui.
Et on recommence notre parcours, vous voulez, il est long hein, encore.
Oui.
Nous étions arrivés à l'Eucharistie, vous rappelez, nous étions encore à l'Eucharistie. Je voudrais qu'on termine l'Eucharistie aujourd'hui pour pouvoir reprendre la réconciliation la prochaine fois. Nous aurons 2 semaines de vacances, n'est-ce pas? Je dis bien? Alors, je vais partager l'écran. L'enregistrement marche, oui, l'enregistrement marche. Est-ce que vous voyez l'écran?
Oui.
Parfait. Je vous ai mis le plan. Nous avions commencé, vous vous rappelez, par toute la première partie jusqu'à la didaké. Et je résume très rapidement. Hein. Nous avons vu que le geste... Attendez, je vous remets au centre avec les... Comme ça, je peux vous regarder en face. Pas d'un côté. C'est ce que assez souvent font les prêtres quand ils célèbrent la messe. Ils ont le remisier à côté et ils ne regardent jamais l'assemblée, vous voyez. Donc, je disais, on a vu que l'Eucharistie prend source dans le geste de Jésus qui nous demande avec un impératif, faites ceci, faites cela en mémoire de moi. Ce geste donc vient de Jésus lui-même. Il a une double signification rituelle d'abord, parce qu'aucun message n'est porté que de manière vocale, au niveau de la parole ou de l'écrit. Il doit être ritualisé. Il doit être ritualisé, il doit passer par notre corps. Et donc, d'abord, il a une fonction rituelle. Faites ceci, c'est-à-dire, prenez le pain, fractionnez-le, partagez-le. Prenez la coupe, passez-la vous entre vous, à mémoire de moi. Mais l'autre, très importante, l'autre côté, l'autre message, l'autre chose à faire, c'est vivre comme Jésus a vécu. C'est-à-dire le don de soi-même. Parce que la scène se situe avant la mort de Jésus. Jésus veut montrer que cela est ce qu'il est en train de vivre, cette livraison qui l'amène à la mort. Et donc, nous avons vu que ce geste a des racines juives qui peu à peu sont devenues chrétiennes. Et le premier texte qui nous le montre est celui que je vous avais sous les yeux, que j'essaie d'augmenter du point de vue, vous le voyez. Nous retrouvons notre ami, nous retrouvons Justin. Vous vous rappelez Justin qu'on avait déjà trouvé comme témoignage pour le baptême. Je ne vous raconte plus qui est Justin, vous le savez désormais, hein, le philosophe martyr. Et en continuant son récit, ou en donnant des indications sur ce que vivent les chrétiens, il parle aussi de l'Eucharistie. Et regardez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, d'abord, vous avez deux colonnes, celle de gauche et celle de droite. Si vous regardez bien, celle de droite, vous pouvez le marquer dans votre papier si vous l'avez, relate plutôt, une Eucharistie baptismale, c'est-à-dire après le baptême de quelqu'un. En effet, regardez, il dit, « Quant à nous, après avoir conduit au bain celui qui a embrassé la foi, nous le menons chez ceux que nous appelons frères au lieu où ils sont assemblés. » Et là, il relate l'Eucharistie. Et l'autre, celui de droite, est un récit, par contre, d'une Eucharistie célébrée le jour du dimanche. Le jour du dimanche. Donc nous sommes au cœur de la pratique chrétienne, peu après au cours de la deuxième moitié du deuxième siècle, entre 170 et 180 de l'ère chrétienne. Et là, je voudrais juste vous faire remarquer là, ceci, c'est à cela que servent les carottages. Hein. Regardez bien cette carotte et vous verrez que là nous avons tout à fait déjà l'Eucharistie structurée comme nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire avec une liturgie de la parole et une liturgie eucharistique à proprement parler. Et là j'essaie de vous la montrer. Regardez. Tout d'abord, je prendrai tout simplement la colonne de droite, l'Eucharistie dominicale, mais l'analyse comparative vous montrera que les choses se recoupent justement. Et je vous fais remarquer que ce qui manque ici, ce qui est blanc, si je peux dire, c'est la partie de lecture. Pourquoi manque la partie de lecture? Parce que pendant que on pense, hein, et c'est comme ça que ça se passera après, pendant qu'on fait le baptême du catéchumène ou des catéchumènes, les frères, c'est de l'assemblée des fidèles, est rassemblé dans un autre lieu et fait la liturgie de la parole. Ça y est? Donc, pas besoin de la répéter quand on amène le baptisé. Mais je reviens à la partie donc de droite. Et donc, le texte dit: pour toute nourriture que nous prenons, nous bénissons le Créateur de l'univers par son Fils Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Au jour que l'on appelle le jour du soleil, tous qui demeurent en ville ou à la campagne se réunissent en un même lieu, le rassemblement. Donc vous voyez, Justin est en train de parler à l'empereur. Et donc il emploie les mots qu'il connaît l'empereur. L'empereur ne connaît pas le mot dimanche, qui est un mot chrétien. Il connaît par contre le mot « le jour du soleil », c'est comme ça qu'on l'appelait voilà. Et donc, du coup, encore aujourd'hui, il y a des langues modernes sans tag ou Sunday, hein, qui emploient le jour du soleil, hein, je vous ferai remarquer. Eh bien, c'est ce jour-là. Alors, du coup, je pense tout de suite que c'est le dimanche. Parce que pour les chrétiens, c'est le dimanche, ce jour-là. Et il dit donc, on fait des lectures, on fait l'homélie, on fait la prière. Alors, attention, j'ai oublié de vous dire, les mots entre crochets que j'ai mis, c'est des mots que j'ai mis moi. Hein. Donc, ça ne fait pas partie du texte de Justin. C'est pour nous aider à comprendre le déroulement de l'Eucharistie. Mais nous retrouvons exactement ce que existait. Alors, rapidement, ne pensons pas que mémoire des apôtres soit les actes des apôtres. On pense que derrière cette expression, il y a les évangiles qui sont en train d'être passés, être transmis dans les communautés chrétiennes. Et derrière les écrits des prophètes, ne pensez pas à l'Ancien Testament. Les écrits des prophètes sont probablement les lettres que les prophètes, c'est-à-dire les chefs des communautés, vous rappelez que nous avions trouvé ce mot dans la Didache quand elle dit « Laissez les prophètes rendre grâce autant qu'ils le voudront ». Ces prophètes-là, ces personnes qu'on appelle prophètes, ce sont probablement les chefs des communautés chrétiennes. Et donc là, les écrits des prophètes, c'est probablement les lettres qu'on s'échange entre communautés. Et vous voyez, il n'y a pas de limite de temps. Aussi longtemps que c'est possible. Donc, c'est le jour où on se rassemble. Et là, du coup, on essaie de s'échanger les nouvelles, entre guillemets, vous voyez. Et puis l'homélie et la prière des fidèles, qui est très développée, qui a même un canevas dans cette autre partie. Hein, donc, elle existe. Et puis, l'offrande du pain et de l'eau, avec coupé du vin, avec coupé de l'eau.
Excusez-moi, je suis désolée, j'ai du mal à écouter. Les deux colonnes que vous avez dit, la colonne de gauche et la colonne de droite, c'est au même moment.
La colonne de gauche, et ce sont deux passages, alors, les deux sont deux passages différents de Justin. La colonne de gauche est un passage dans lequel Justin relate une Eucharistie baptismale.
Ah d'accord, ok.
Et l'autre dominicale.
Ah ok, excusez-moi, merci.
Mais si on les compare, les choses se recoupent.
D'accord, merci.
Et donc, offrande du pain, de l'eau et du vin. Et puis, regardez, le président, pareillement, fait monter prière, action de grâce de son mieux. Donc, du coup, il y a la prière eucharistique que, dans la colonne de droite, vous voyez, elle est développée. Hein, adresse louange et gloire au Père de l'univers par le nom du Fils et de l'Esprit-Saint. Et il fait une longue action de grâce parce que nous avons été. Donc, c'est la prière eucharistique. Vous vous rappelez que dans la Didache, on disait justement « Laissez les prophètes rendre grâce autant qu'ils le voudront. » Et là, on avait le canevas du texte de la prière qu'on faisait dans l'Eucharistie. Donc, du coup, on a la même teneur aussi chez Justin. Il connaît les mêmes usages. Et puis, regardez, c'est très beau ça. Il dit la participation du peuple de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un dit la prière que le peuple n'est pas concerné. Au contraire, s'il y en a un qui fait la prière, c'est tout à fait un fait rituel. Pas tout le monde le peut faire en même temps. La voix de l'un est pour tous les autres. Mais, Justin souligne, le peuple exprime son accord en proclamant l'Amen. Donc du coup, il dit bien que la prière est terminée par l'assentiment de la communauté chrétienne. Et puis donc, on a la distribution du pain et du vin trempé par les ministres et puis apporté par les diacres à ceux qui sont absents. Hein. Puis chacun, on le distribue et on l'apporte par l'intermédiaire des diacres. Et je voudrais vous faire remarquer un passage qui me semble extrêmement important, qui nous fait entrer, entre autres, dans la compréhension de l'Eucharistie. Après, je reviendrai pour ressaisir le témoignage de Justin. Mais regardez, Justin dit ceux qui ont du bien et qui le veulent donnent librement ce qu'ils veulent, chacun selon son gré. Ce qui est recueilli est mis en réserve auprès du président, le président de la communauté chrétienne, celui qui préside la communauté chrétienne, probablement est celui qu'on appelle le prophète, voyez. C'est lui qui assure des secours aux orphelins, aux veuves, à ceux qui sont dans l'indigence du fait de la maladie ou de quelque autre cause, ainsi qu'aux prisonniers, aux autres étrangers. En un mot, il prend soin de tous ceux qui sont dans le besoin. Donc vous voyez, la communauté chrétienne, au moment où il célèbre l'Eucharistie, manifeste l'importance de l'agir chrétien, de la dimension éthique de l'agir chrétien. C'est très important cela. Nous l'avons, entre guillemets, si je peux dire, un peu oublié. C'est-à-dire que nos rites à nous aujourd'hui, j'essaie de faire là du coup une critique, mais une critique constructive. Hein. Il y a deux choses, il me semble, qui sont peu parlantes désormais dans nos pratiques eucharistiques. L'une, c'est le fait que nos communions ont des hosties précoupées. Les hosties précoupées tuent la force symbolique du pain fractionné, de l'unique pain fractionné. Vous voyez ? Donc nous n'avons plus la perception que nous partageons un même pain. Ce sont des hosties précoupées. Et l'autre, c'est celle-là que je suis en train de vous montrer, la quête tue. La quête tue la dimension éthique de l'Eucharistie. Parce que la quête, on sort mécaniquement de notre porte-monnaie une pièce d'argent ou un billet de monnaie, mais on ne pense pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors que là, vous voyez, les biens qui sont ramassés sont des biens matériels. Les gens venaient à l'Eucharistie en apportant le vêtement, les chaussures, le vin, l'huile, le sel, pas le sucre parce que ça n'existait pas. Mais voilà, tous les biens primaires dont avaient besoin les pauvres. Et donc cela nous montre une chose très importante, j'y reviendrai tout à l'heure. Déjà, retenez ça. Et dernière chose, Justin dit ceci, une fois qu'il a dit qu'est-ce qu'on fait, il donne la signification théologique de l'Eucharistie, qui est encore tout à fait valable pour nous, qui a encore du sens pour nous. C'est le jour du soleil que nous réunissons tous ensemble, parce que ce jour est le premier, celui où Dieu, en transformant les ténèbres et la matière, fit le monde, et celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, a ressuscité les morts. Il avait été crucifié la veille du jour du Saturne et le lendemain de ce jour, c'est-à-dire le jour du soleil, il apparut à ses apôtres, à ses disciples et leur enseigna ce que nous venons d'exposer et que nous soumettons à votre examen. Donc vous voyez, Justin dit, nous célébrons l'Eucharistie le jour de la résurrection de Jésus. Le jour de la résurrection de Jésus. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il met en parallèle, côte à côte, on pourrait dire, la création, le jour où Dieu a créé la lumière, et le jour de la résurrection où Jésus est sorti du tombeau comme une lumière, hein, a porté la lumière de la résurrection. Et donc là, il relie l'histoire du salut en un seul jour, vous voyez. Et c'est le jour ou le moment où on célèbre l'Eucharistie. Et donc, le témoignage de Justin nous donne déjà une théologie de l'Eucharistie très importante. L'Eucharistie n'est pas possible s'il n'y a pas de rassemblement des chrétiens. L'Eucharistie signifie l'unité de l'Église. Alors, pour reprendre l'expression d'un grand théologien qui s'appelait Henri de Lubac, vous avez dû entendre ce mot pendant le cours d'ecclésiologie. Henri de Lubac dit « L'Église fait l'Eucharistie, mais l'Eucharistie fait l'Église ». Eh bien, quand on dit « L'Église fait l'Eucharistie », c'est-à-dire qu'elle se rassemble pour faire l'Eucharistie. S'il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas d'Eucharistie. Mais l'Eucharistie fait l'Église, c'est-à-dire qu'en se rassemblant, l'Église peut faire ce que le Christ lui-même a demandé. L'Eucharistie, donc, permet de rendre visible l'Église. L'Eucharistie a comme partage, je dirais, de manière analogique, c'est-à-dire qu'on peut comparer la parole à l'Eucharistie. La parole, comme un pain qu'on partage, à la manière qu'on partage le pain eucharistique. Parce que la lecture qu'on fait, la proclamation de l'Écriture, a cette fonction-là, d'être partagée, même si on fait qu'écouter, généralement. L'homélie, en principe, devrait avoir cette fonction de faire ruminer ce qu'on a entendu, vous voyez, de faire mâcher ce qu'on a entendu. Parfois ça marche, parfois non, mais ça c'est un autre discours. Mais voilà le sens des lectures, hein. C'est-à-dire que c'est d'abord par la parole que le Christ s'est donné à nous. C'est par sa parole. Je vous fais remarquer que l'évangile de Jean commence par le Verbe. Le Verbe, le Logos s'est fait chair. Donc cette phrase-là, le Verbe s'est fait chair, pourrait presque résumer la structure de l'Eucharistie. Le Verbe, liturgie de la parole, s'est fait chair, liturgie eucharistique. Et une Eucharistie n'est pas possible, je disais, s'il n'y a pas de rassemblement, si elle ne rumine pas la parole qui convoque les chrétiens. Elle n'est pas possible si on n'offre pas à Dieu le Père l'offrande que le Christ a fait lui-même de lui-même. Vous saisissez ça? C'est que l'Eucharistie, ce que nous offrons, là je reprends la théologie des Pères de l'Église, un grand théologien de l'Église qui s'appelle Irénée de Lyon, Irénée de Lyon, a eu cette intuition géniale. Il dit, bien sûr, nous offrons l'Eucharistie, mais les biens que nous offrons, c'est-à-dire le pain et le vin, ça ne vient pas de nous. Le pain et le vin, c'est bien sûr le fruit de travail, comme nous disons, des hommes et des femmes. Mais c'est surtout, si je regarde d'où vient la farine, d'où vient le raisin, bien c'est Dieu qui l'offre par sa création. Et donc il dit, nous ne faisons qu'offrir par les biens de la création qui viennent de lui, nous signifions par ces biens le don que le Christ lui-même a fait de lui-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela, c'est-à-dire faites mémoire du don que le Christ a fait de lui-même. Et donc le pain, le vin symbolise d'une manière sacramentelle, hein, ce don du Christ lui-même. Et donc voilà ce que je voulais dire, c'est que nous ne faisons que rendre à Dieu ce qui déjà nous a rendu. Mais nous devons le faire. Vous voyez, c'est ça qui est saisissant. Nous ne pouvons pas dire, ben, tu l'as fait, ça suffit. Non, je vous disais tout au début de notre cours, Dieu ne peut rien sans nous. Et donc, nous, en rentrant en dialogue avec Dieu, nous devons lui rendre ce qu'il nous a donné. J'ouvre une parenthèse, nous en parlerons quand nous parlerons des funérailles chrétiennes. Mais vous vous rendez compte que nous serons appelés un jour, quand nous mourrons, de lui rendre notre propre corps qui était à nous. Il faudrait penser l'Eucharistie de cette manière. Les biens que nous offrons au Dieu de l'Eucharistie, ça vient de lui et nous devons lui rendre. Pas parce qu'il est jaloux de ses biens, mais pour montrer la dynamique de la grâce. La grâce est partagée. Elle n'est pas à quelqu'un. La grâce est partagée. Et donc, je disais, voilà, il faut l'offrande, alors du coup, de l'Église, hein, qui signifie l'offrande du Christ lui-même, et il faut que l'Eucharistie nous rende capables de vérifier que ce que nous avons offert est vrai, que ce n'est pas qu'un rite, voyez, que nous ne devons pas nous contenter d'un rite, mais que ce que nous faisons, si nous faisons ce que le Christ a fait, eh bien ce que le Christ a fait va jusqu'au bout de son don, c'est-à-dire l'amour que nous avons pour les plus pauvres. Parce que les plus pauvres, c'est le corps blessé du Christ. Et puis, je termine, l'Eucharistie est justement une Eucharistie pas historique. Nous ne répétons pas la dernière scène. Vous comprenez ça? Je ne fais pas un mime de la dernière scène. L'Eucharistie que je célèbre est l'Eucharistie du Christ ressuscité. À travers l'Eucharistie, nous rendons présent, nous remettons en présence le Christ ressuscité au milieu de nous. Vous vous rappelez le Maranatha de la Didaché, hein? Viens, Seigneur Jésus. C'est cela que veut dire l'Eucharistie, d'où l'idée de la partie, que cette Eucharistie est pascale par excellence. Ce n'est pas par hasard que l'Eucharistie dominicale est celle qui rassemble la plupart des fidèles. Ça va jusque-là?
Oui, j'ai une question.
Allez-y, Judith.
Alors, et du coup, pour les protestants, cette partie-là?
Voilà, pour les protestants, c'est très intéressant. Vous savez, on dit toujours, je fais des cours œcuméniques et avec les collègues protestants et orthodoxes, et nous, moi avec l'orthodoxe, on dit toujours, nous on serait capables, entre nous les catholiques et nous les orthodoxes, de célébrer l'Eucharistie sans prédication, hein? Alors que pour le protestant, ce serait impossible de concevoir une scène sans culte, sans prédication. Et donc, effectivement, les protestants, pas les protestants, pas les réformateurs, les premiers réformateurs, là je tiens ça de mon collègue protestant, hein, les réformateurs étaient très attentifs. Jamais ils auraient, comment dire, divisé la prédication et donc le culte de la partie eucharistique. C'est peut-être l'évolution du protestantisme à un moment donné qui a détaché les deux moments. Et surtout dans les dernières 50 années, les paroisses protestantes assez souvent célébraient que le culte, c'est-à-dire que la prédication, sans la scène. Et la scène, ils pouvaient la célébrer une fois par mois, une fois tous les deux mois, vous voyez, ce n'était pas très important. Mais il paraît, je vous rapporte ce que dit le pasteur avec lequel je fais des cours, il paraît que les protestants aussi, de plus en plus, les paroisses sont demandent de vivre la scène en même temps. Hein. Et donc, effectivement, il ne faut pas opposer, c'est une question de, comment dire ça, de bien de famille. Nos familles évoluent comme elles peuvent et comme elles savent. Naturellement, pourquoi cela est advenu chez les protestants contre les catholiques, hein? Et puis, surtout parce qu'eux nous rendent attentifs, et c'est important, à la parole que nous avons négligée pendant longtemps. Et donc, on ne peut pas dire que les protestants opposent les deux moments. Mais voilà, ils diront, leur théologie dirait, ce qu'en vérité je viens de dire, ce n'est pas possible de célébrer une Eucharistie sans la parole. Parce que c'est la parole qui nous a été donnée la première. Celle qui nous convertit, celle qui nous évangélise.
Hein? Merci.
Et je vous fais remarquer, je termine par ça. Nous ne le pensons pas parce que nous l'avons fait devenir le mot, là je caricature un peu, mais nous l'avons fait devenir l'expression qui consacre les hosties. Mais ceci est mon corps, le récit de la scène qu'on prononce dans la prière eucharistique est la parole, hein, je vous fais remarquer. Donc même au cœur même où on célèbre la scène, c'est au moment de la prière eucharistique, on a la parole qui consacre les dons.
Merci.
Est-ce que vous avez encore envie de m'entendre 10 minutes?
Oui.
Avant de passer à la deuxième partie, nous ferons une petite pause. Hein, c'est pour terminer le parcours, l'évolution historique. Et pour le faire, je le ferai beaucoup plus rapidement. On n'a plus de texte à regarder. Je voudrais juste le faire à partir des structures de l'Eucharistie. Retenez ceci, chers amis, ce que nous avons vu à Justin, c'est celle-là, c'est cette structure-là qui va rester et qui arrive jusqu'à nous. Liturgie de la parole, liturgie eucharistique, avec le détour que Judith nous faisait remarquer de la pratique protestante. Mais les deux ne sont jamais oubliés chez les chrétiens. Et donc, ces deux parties-là vont évoluer dans l'histoire, tantôt rester stable, tantôt se réduire, tantôt s'amplifier. C'est comme un corps. Hein? La ritualité, rappelez-vous, c'est comme un corps. Il grossit, il peut être très développé, peu développé. Et donc, le tableau que je vous ai mis là est un tableau qui commence du 4e siècle. Et retenez, le 4e siècle est le siècle dans lequel l'Église peut professer sa foi. Concile de Nicée, Constantin, vous rappelez-vous tous ces moments-là historiques, Constantin bâtit des basiliques. Et le fait d'avoir pour les chrétiens des grands bâtiments pour célébrer l'Eucharistie fait que le rite se développe. Vous voyez ? Si dans l'Eucharistie de Justin, participer peut-être une trentaine de personnes, alors nous tous qui faisons à manger, nous savons que s'il faut préparer à manger pour 3, on a besoin de peu de choses. S'il faut préparer un grand festin pour 15 ou 20 personnes, il faut ajouter. C'est pareil pour l'Eucharistie. Quand à une Eucharistie, au 4e siècle, il y a 300, 400, voire parfois 1000 personnes dans une basilique, ah ben, il faut en ajouter de pain et de vin. Et donc, tous les rites autour de l'apport des dons, tous les rites des déplacements, d'où on se tient, où se tiennent les ministres, où se tiennent les fidèles, vont se développer. Et donc, je vous ai mis idéalement un parcours historique qui va du 4e siècle, passe par le 7e siècle à Rome, et va jusqu'au 8e, 9e siècle à Constantinople, dans l'Orient chrétien. Justement, j'essaie de vous montrer l'Orient tout au début, l'Occident vers le milieu, et l'Orient à nouveau vers la fin. Et qu'est-ce que nous voyons? Tout d'abord, nous voyons qu'il y a développement des lectures. Désormais, les lectures ont l'Ancien Testament, l'apôtre, ça veut dire l'apôtre Paul, hein, on l'appelle comme ça, les lettres de Paul et l'Évangile. C'est pareil dans le rite latin, l'épître, le psaume, l'alléluia, l'évangile. Et dans la tradition byzantine, on aura le psaume, l'épître, et puis l'évangile à nouveau. Donc, ces lectures peuvent évoluer, c'est le pôle où les choses peuvent évoluer. Parfois, il y en a beaucoup, parfois, il y en a moins. On les réduit. Même le rite latin, à un moment, oublie l'Ancien Testament dans les lectures. La tradition latine, avant le Concile. On a tout un système, surtout au IVe siècle, de renvoi, c'est qu'on on demande à eux de sortir, de groupes de chrétiens qui sont dans une situation qu'on pourrait appeler périphérique, c'est-à-dire qui ne peuvent pas accéder encore à l'Eucharistie parce qu'ils sont catéchumènes, qui sont possédés, voilà notre démon, qu'on retient possédés par le démon, les illuminants. C'est un terme technique pour définir, pour appeler les catéchumènes qui doivent recevoir le baptême à Pâques. Voyez, donc ceux qui doivent être illuminés, le baptême est l'illumination, et les pénitents, c'est-à-dire les chrétiens qui, après avoir reçu le baptême, avaient pu pécher gravement. Donc ils devaient faire pénitence avant d'être réintégrés dans la communion de l'Église. Eh bien, ces groupes de chrétiens, à cette époque, étaient pas expulsés. On leur demandait de sortir de l'Église. Et donc, la deuxième partie de l'Eucharistie était effectivement accomplie par les fidèles. D'où la position de la prière des fidèles. C'est pour cela qu'elle s'appelle prière des fidèles. Parce qu'elle est faite par des baptisés. Le baiser de paix, à nouveau, je vous rappelle, on a lu un texte pour le baptême, il n'y avait que les baptisés qui pouvaient s'échanger le baiser de paix entre eux et le lavement de main. Et puis, arrive là, et là vous voyez que, excusez-moi, par exemple, le rite romain au 7e siècle, il ne parle pas, au moins dans le document que j'ai analysé, il ne parle pas de ces choses-là. Donc apparemment, ou il n'existe pas, ou celui qui écrit le document ne veut pas en parler. Par contre, dans la tradition byzantine, on le retrouve, on a l'homélie, la prière pour l'Église, le renvoi à nouveau et la prière des fidèles. Et puis la deuxième partie de l'Eucharistie, vous voyez, tout le temps on retrouve le transfert des dons, la prière eucharistique, le canon de la messe et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'appelle acte manuel? C'est justement fractionner le pain, parfois le mettre dans le calice pour certaines traditions, comme la tradition byzantine, vous voyez, consignation, commixtion, ce sont des termes techniques pour dire qu'on prend le pain, on le signe avec le vin, et puis on met tout dans le calice, la commixtion. Mais ne retenez pas trop ces termes. Voilà. Il y a des actes manuels pour pouvoir faire communier les gens. Et puis la communion, et le renvoi final. Je vous fais remarquer une chose. Vous retrouvez tous les grands éléments de l'Eucharistie tels que nous la connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas? En gros, nous les retrouvons tous. Il faut savoir que entre le gros 9e siècle et le Concile, je reste là du coup dans notre propre tradition, la tradition latine, et le concile du Concile Vatican II, il y a des éléments qui vont disparaître dans la célébration de l'Eucharistie. Il y a un phénomène qui va se jouer, que j'essaie de décrire, dont on peut parler, parce que parfois ça choque les personnes. Mais historiquement, on sait que entre, disons, le Xe siècle et le XXe siècle, il y a ce qu'on appelle une cléricalisation de la célébration de la messe. Qu'est-ce que j'appelle une cléricalisation de la messe? C'est-à-dire que dans la tradition latine, on a tendance, il y a ce phénomène qui se joue, on confie la célébration de la messe au clercs, aux prêtres. Les fidèles n'y participent, ils vont à l'église, mais ils ne sont pas censés de participer à ce qui est en train de se faire. pour différentes raisons, je vous l'ai fait remarquer. La langue latine n'est plus compréhensible. Les prêtres ne parlent plus à haute voix quand ils célèbrent l'Eucharistie, quand ils célèbrent la partie eucharistique. L'autel s'éloigne des fidèles. Les prêtres célèbrent l'Eucharistie avec le don tourné. C'est comme si je vous parlais de cette manière, pendant que je fais des choses en face de moi. Vous voyez, c'est un peu gênant, n'est-ce pas? Et donc, tout cela fait qu'il y a, entre guillemets, hein, des affections, ou disons, non pratique, non perception de l'Eucharistie chez les catholiques. Notamment, je vous fais remarquer, c'est bien pour cela, et donc, les catholiques ont tendance à peu communier et à beaucoup se confesser. Un peu pour remplacer le manque de communion. Et c'est bien pour cela que des papes, à plusieurs reprises, j'en cite quelques-uns, d'abord, ce n'est pas un pape, c'est un concile, qui demande aux catholiques de communier au moins une fois par an à Pâques. Si cette loi de l'Église est donnée, ça veut dire que, la loi n'est, que les gens ne communient pas régulièrement. Voyez. Et deuxième, c'est Pie X qui demande que les enfants puissent communier plus souvent. Là aussi, ça dit que généralement, les catholiques ne communient pas assez souvent. Et donc, j'en termine. Là, c'est vraiment, je l'ai dit de manière très concise pour que vous compreniez l'évolution. Ça nous fait comprendre pourquoi le Concile Vatican II, quand à un moment, quand il est célébré, se rend compte qu'il faut désormais adapter les rites de la messe aux situations des fidèles telles qu'ils étaient dans les années 60, 70, 60 surtout. Et donc, on veut que les fidèles participent à l'Eucharistie. Et comme par hasard, regardez, ce qui avait disparu va réapparaître. Je vous fais remarquer à partir de ce schéma qui est, oui, je l'appelais ordomis, ça veut dire ordre de la messe, déroulement de la messe, hein, qui est daté, qui a été promulgué, je dirais, le 4 décembre 69. Eh bien là, nous trouvons les grandes parties de la messe, hein, le rassemblement, vous voyez, tel que Justin le concevait. On a un chant d'entrée, la salutation, la préparation, là, tout ce qu'on retrouvait dans le rite latin. Si vous allez là, vous le retrouverez là. Donc on retrouve en gros les rites de l'Église latine, beaucoup plus anciens paradoxalement, qu'on avait escamoté, qu'on ne faisait pas au cours de la célébration de la messe. Le prêtre ne faisait que rentrer tout seul avec les servants d'autel. Il priait tout seul en bas de l'autel avant de monter à l'autel dans le rite avant la messe, avant le Concile Vatican II. Là, par contre, vous voyez, on veut mettre en œuvre une célébration, un rite d'entrée qui marque le rassemblement des fidèles par le chant, je reviens, par le chant, la préparation pénitentielle, le gloria, la prière d'ouverture, vous voyez. On a développé la liturgie de la parole. Il n'y a plus que trois lectures, mais on fera une première lecture avec l'Ancien Testament, on redécouvre l'Ancien Testament, on pourrait dire. Le psaume qui devient très important, la deuxième lecture tirée du Nouveau Testament et l'Évangile. Et cela, je vous rappelle, avec toute la parole de Dieu peut être lue en 3 ans. Hein. On pourrait idéalement, je dis toujours, idéalement, si un catholique allait à la messe tous les dimanches, il pourrait entendre en 3 ans toute la Bible. Toute la Bible, c'est exagéré. Mais la plus grande part de la Bible, Hein, il y a des livres qu'on ne lit pas, mais la plus grande partie de la Bible. L'homélie qu'on redécouvre, la prédication avait disparu en catholicisme. La prédication était faite, bien sûr, elle était faite, mais elle était faite ou bien à la fin de la messe, ou bien pendant la messe, mais elle n'avait rien à faire avec les lectures qu'on n'entendait pas. Ou bien on la faisait hors de la messe. Je vous fais remarquer qu'au Moyen-Âge, on le fait sur le porche des cathédrales, devant le porche des cathédrales. C'est bien pour cela que dans les cathédrales, on représente ces magnifiques sculptures pour lesquelles les fidèles qui écoutaient la prédication pouvaient regarder l'histoire sainte. C'était pédagogique, vous voyez. Et donc, on retrouve l'homélie qui, les indications le disent, doivent avoir une référence aux Écritures, pas des indications morales, voilà. La prière universelle qu'on ne faisait plus, donc la prière des fidèles, la liturgie eucharistique avec la préparation de dons et surtout l'apport des dons par les fidèles. Là aussi, c'est quelque chose qu'on avait perdu parce que ce n'était que les dons. C'était le prêtre qui arrivait avec son petit calice, l'hostie pour lui, et c'était tout. Là, par contre, la procession des dons, assez souvent, si elle est bien faite, montre que les offrandes viennent des fidèles. Et puis la prière eucharistique, c'est-à-dire le rite latin, le rite catholique, avait qu'une seule prière eucharistique, le canon romain, et le concile, en produit, en écrit, en rédige d'autres, avec notamment un équilibre théologique de la prière eucharistique qui donne beaucoup d'importance au groupe, à la partie récit de l'institution, anamnèse et épiclèse, assez souvent après. Et puis les rites de communion pour lesquels on prévoit la possibilité de communier sous les deux espèces. Et donc, communier au corps et au sang du Christ, ça aussi c'est quelque chose qui a été perdu. Voilà en gros l'évolution de l'Eucharistie. Avant de faire une pause de 5 minutes, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ça? Excusez-moi de vous avoir fait un peu galoper, mais c'était pour photographier en vérité.
S'il vous plaît, c'est quoi la communion sous les deux espèces?
Comment?
C'est quoi la communion sous les deux espèces?
La communion sous les deux espèces, c'est l'espèce du pain et l'espèce du vin. Et donc, coup, sous la communion au corps et au sang du Christ.
Excusez mes questions basiques, mais comme je suis nouvellement arrivée dans le christianisme, j'ai...
Ah non, mais vous faites bien, Anaïs. C'est fait pour ça, le cours, hein?
Oui.
C'est fait pour ça. C'est pour cela que je vous demande de poser des questions. Si quelque chose n'est pas clair, surtout posez-les, sinon vous ne dormez pas cette nuit.
Moi, j'ai une question. J'ai pas de vidéo parce que c'est pas pratique. C'est Yolaine.
Oui, oui.
Je vous les avais envoyés par mail. C'était à partir de quand il y a la figure du prêtre qui apparaît?
Ah, la figure du prêtre, ah oui, c'est une question que vous m'aviez posée. Vous faites bien me le rappeler, Yolaine. La figure du prêtre dans l'Eucharistie.
Oui, oui.
Oui, voilà.
Celui qui
préside. Oui. D'abord, passait, oui. Voilà, je répondrai de cette manière, Yolaine. Et ça, je pense que c'est important pour mettre à profit les textes que nous avons vus. Nous avons vu que et la Didache et Justin ne parlent pas de prêtre. Ils disent celui qui préside, vous voyez? Donc, première chose à dire, c'est qu'on pense que jusqu'au deuxième siècle, il n'y a pas celui qu'on appelle prêtre qui célébrait. Il y avait celui qui présidait la communauté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a toujours eu une présidence pour célébrer l'Eucharistie. Vous voyez? Il y avait toujours un seul qui, par exemple, proclamait la prière eucharistique. Justin nous le montre. Mais par contre, la figure du prêtre, ce qu'on appelle le presbytre, mais apparaît avec l'apparition des ministères dans l'Église, c'est-à-dire autour du 3e et 4e siècle. Parce que du coup, ce sera, la célébration de l'Eucharistie sera confiée à l'évêque, en premier lieu, et puis aux prêtres, quand il y aura les paroisses qui se multiplient dans l'évolution du christianisme. Et donc, effectivement, c'est à eux qui revient le fait d'être les présidents, de présider à ce rite. Est-ce que j'ai répondu, Yolaine?
Oui, merci beaucoup.
Frère Isaïa.
Oui, Françoise.
Oui, les orthodoxes ne communiquent pas avec justement le partage du pain.
Alors, je ferme le partage de l'écran plutôt. effectivement, les orthodoxes ont connu une évolution dans les rites de la communion. Désormais, ils communient avec une cuillère. Et donc, ce qui pose un problème énorme actuellement. Je vous fais remarquer, il y a toutes sortes d'adaptations pour ça. Mais là, nouveau, c'est le collègue orthodoxe qui me l'a fait remarquer. S'ils sont arrivés à ça, c'est peut-être aussi pour des raisons d'épidémie, entre autres, hein, dans le passé. Hein. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'ils font les orthodoxes? À un moment où ce que j'appelle les actes manuels, ils fractionnent le pain, ils le mettent tout dans le calice où il y a le vin, et puis avec une cuillère, donnent la cuillère à celui qui communie, au communiant. Voilà. Je vous fais remarquer que dans les rites catholiques latins, à un moment dans l'histoire, on a communié avec le chalumeau. Et quand avec un chalumeau, donc avec une paille, et qu'au moment du concile, quand il fallait penser comment adapter les rites de communion qu'on adaptait pour les fidèles, c'est pas que les voilà, on avait pensé au chalumeau, mais ça devenait trop compliqué. Il aurait fallu venir de la maison avec un chalumet individuel.
Et à Pâques, il n'y a pas une... Alors, je ne sais pas si ça correspond plutôt à des coutumes. Le partage, on offrait... Moi, je me souviens, on offrait des morceaux de brioche.
Oui, c'est plutôt des coutumes. Mais vous dites à les orthodoxes, vous parlez, non?
Non.
Dans la tradition catholique.
Oui,
vous avez tout à fait raison. Moi aussi, moi, pourtant, je suis, en vérité, je vous révèle, je suis très vieux, moi aussi. Donc, du coup, moi aussi, j'ai connu.
De mon temps.
J'ai connu le Jeudi Saint, on distribuait le pain le Jeudi Saint, effectivement.
Le pain béni, merci.
Le pain béni. On pouvait le faire à Pâques, vous voyez, c'était le pain béni donné, mais c'était du pain béni, c'était une coutume, ce n'était pas l'Eucharistie.
Le Vatican II a permis de pouvoir célébrer la messe, non pas en latin, mais dans le langage,
tout à fait, disons, dans les langues, on dit vernaculaire.
Vernaculaire. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir encore des célébrations où du latin est mélangé avec du français, par exemple pour nous en France? Est-ce qu'il y a un intérêt encore à avoir ça, surtout que quasiment personne ne comprend le latin, moi le premier?
Je vous réponds avec beaucoup de franchise. Je pense qu'on n'a aucun intérêt. Je pense qu'il n'y a pas... Ça peut même nuire à la ritualité. Parce que, comme vous dites, si j'entends des choses que je ne comprends pas, déjà Paul le disait, à quoi ça me sert spirituellement? Vous voyez? Et donc, du coup, je trouve que ce sont des modes qui reviennent, hein, et qui peut-être nuisent un peu à l'intelligence que le Concile avait voulu retrouver, de donner aux fidèles, de permettre aux fidèles de participer avec conscience ce qu'ils faisaient. Et alors, il y a effectivement ces modes. Alors, voilà, c'est un constat. Il ne faudrait pas que cela obscurcisse, hein, comme on l'a vu dans l'histoire. Il y a eu un moment où tout cela s'est obscurci. Hein. les rites qui étaient limpides dans l'Antiquité deviennent enveloppés de mystères. Quelqu'un m'avait posé la question, je vous fais remarquer, c'est au XIVe siècle qu'on commence à construire les jubés. Les jubés des églises qui ferment la vue du sanctuaire sont construits justement parce qu'on a une conception de l'Eucharistie. C'est l'affaire des clercs, vous voyez.
Une question de pouvoir aussi, non ? C'est pas une question de...
Oui, c'est... Oui, tout à fait. J'étais en train de dire une chose, mais je ne la dis pas parce que sinon, je risque de choquer.
Mais mon père...
Non, je voulais dire en plaisantant, ça semble un peu démoniaque tout ça.
Oui. Mon père, vous m'entendez là ?
Oui, oui.
Parce que ce n'est pas encadré. Et oui, alors, parce que, donc vous pensez que le retour, que quoi du retour ? Un petit retour quand même, hein, le pape nous parle d'un petit retour aux messes en latin.
Non, le pape actuel ?
C'est pas ce que j'ai entendu dire, retour quand même à pas mal de...
Non, je ne crois pas, surtout pape François.
Ah ben alors j'ai mal...
Non, il est clair, alors, j'essaie d'être sérieux là, je le suis toujours, attention, mais j'essaie de le dire de manière plus scientifique et universitaire. Rappelez-vous ceci, la langue officielle de l'Église latine est le latin. Et donc, c'est normal que, par exemple, je ne vous l'ai pas dit avant, que les livres liturgiques, les rituels, sont écrits d'abord en latin. Et donc, la langue de communication, si vous allez suivre parfois des messes papales, c'est à ce que vous référez, à la télévision, pas tout le temps, mais... Parfois, le pape peut célébrer en latin certaines parties de la messe. Mais parce que ça vient de la tradition la plus ancienne de l'Église catholique.
C'était la langue commune.
Hein?
C'était la langue commune.
C'était la langue commune à une époque donnée. Même si on ne parlait pas latin, personne ne comprenait à l'époque. Donc, vous voyez, mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui. C'est bien pour cela que le Concile Vatican II a dit il faut, comme disait Yves.
Oui.
Comme disait Yves, le Concile a dit il faut redonner, il faut que les gens entendent, donc il faut qu'on le transmette en langue vernaculaire. Donc du coup, on a traduit le rituel dans les différentes langues, vous voyez. Mais s'il y a retour, comment on pourrait dire ça, de certains groupes qui sont un peu identitaires, hein, et qui peut-être ont une conception de la foi qui est très identitaire.
Ça existe déjà, il y a certaines églises où ils célèbrent la messe en latin, tel que...
Oui, tout à fait, c'est parce que là, du coup, c'est un autre pape, le pape Benoît XVI, qui à un moment donné, j'essaie d'être là aussi franc, à un moment donné, pensant qu'il pouvait réconcilier le monde des traditionalistes, qui sont coupés de l'Église catholique, avait pensé qu'en leur permettant... en permettant de célébrer la messe selon le rite avant la réforme liturgique, le rite de Jean XXIII, donc le missel de Jean XXIII, mais certains même de Pie V, donc qui remonte au Concile de Trente, auraient pensé qu'il pourrait revenir. En vérité, la vraie question des traditionnalistes, ce n'est pas tellement la liturgie, c'est leur manière de penser l'Église qui est différente. Comment ? Voilà, donc je disais qu'on va terminer l'Eucharistie. Je voudrais le faire de cette manière-là. Je vais partager l'écran. Ça va jusqu'à maintenant ?
Oui.
Vous n'êtes pas trop dérouté ?
Non.
Bon, parfait. Vous m'encouragez donc ?
Oui.
Vous me bénissez pour que je puisse continuer.
Absolument.
Voilà, donc je voudrais très rapidement vous montrer une autre chose, un autre regard. Jusque maintenant, nous avions un regard, je dirais, on a eu un regard historique, mais vous avez compris, je voudrais que vous compreniez ça. Nous, parfois, quand nous allions au lycée ou à l'école, même avant, on dit, oh, l'histoire, quelle barbe. Ça dépend un peu de la géographie et l'histoire, quelle barbe. Mais en vérité, vous voyez comment l'histoire, dans ces questions des sacrements, peut être assez décisive. C'est-à-dire que le parcours que nous avons fait historique, que ce soit pour le baptême, que ce soit pour l'Eucharistie, quand nous le ferons pour les autres sacrements, est décisif pour comprendre la théologie d'un sacrement. Et là, je voudrais montrer, donc, par exemple, la vision de Justin dit tout de l'Eucharistie déjà. Hein. Mais je voudrais juste vous montrer rapidement, là, du coup, dans ce plan qu'on vous a distribué ce matin, vous avez les appellations avec lesquelles on nommait l'Eucharistie. Et ces appellations sont intéressantes parce qu'elles disent une théologie de l'Eucharistie. Comment on peut la concevoir? Ce n'est pas un hasard, si je dis, si on appelle la messe l'Eucharistie, repas du Seigneur à l'âge apostolique, et qu'on l'appelle, par exemple, messe à partir du Moyen-Âge, et que nous l'appelons encore parfois messe, hein, ça dépend, on verra. Donc, regardez, très rapidement, tout au début, à l'âge apostolique, c'est-à-dire au premier siècle du christianisme, comment on appelle l'Eucharistie? Techniquement, c'est-à-dire que quand il faut dire « allons faire ça », on l'appelle le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Et c'est là, qu'est-ce qu'elle nous rappelle, cette expression-là? Elle nous rappelle deux choses, principalement. L'une, que ce que nous faisons, ça vient de Jésus lui-même. C'est le repas du Seigneur. Et puis, du fait que, justement, ce repas nous rend présent à celui, nous rend présent à celui dont nous faisons mémoire. Donc le repas du Seigneur dit à la fois le lien au Christ, et puisqu'il est un repas, dit le lien entre nous. Voilà. Donc c'est normal que les premières communautés chrétiennes appellent cela. C'était ce qui les caractérisait. Hein. C'était pas un repas quelconque. C'était le repas du Seigneur. Ce n'était pas « je vais au déjeuner », ce n'était pas « je vais au dîner », « je vais au repas du Seigneur ». Ça caractérise même, entre guillemets, du point de vue sacramentel, le fait que ce n'est pas un repas ordinaire. L'autre terme, vous le comprenez facilement, c'est « fraction du pain ». Et là, donc, du coup, « fraction du pain », m'amène ou me ramène ou me rattache à l'origine même du geste de Jésus. Jésus a fractionné le pain. Et donc, du coup, au geste de Jésus. Je vous rappelle, ce serait intéressant si vous avez envie d'aller voir dans le Nouveau Testament comment la fraction du pain ouvre les yeux de ceux qui le voient. Par exemple, Emmaüs, c'est ça. Ils le reconnaissent pas sur la route, mais au moment où ils fractionnent le pain, ils le reconnaissent. Ou bien Jésus ressuscité qui, sur le bord du lac, prépare du poisson, fait un barbecue, si je peux dire, du poisson. Eh bien, c'est au moment où ils arrivent et qu'ils offrent le pain et le poisson qu'ils reconnaissent Jésus, qui était étranger jusque-là. Donc, quelque part, on pourrait paraphraser ça, l'Eucharistie nous ouvre les yeux, hein, si nous sommes capables de regarder, hein, au mystère qui est célébré. L'autre mot qui va avoir du succès, parce que vous voyez, repas du Seigneur et fraction du pain, on l'emploie pratiquement plus, mais tout en étant très riche, mais vous n'allez pas dire à vos amis, oui, dimanche, je ne peux pas venir chez toi parce que je dois aller à la fraction du pain. Il ne va rien comprendre. Donc, vous voyez que c'est connoté historiquement, mais ça a du sens. Ça a du sens. Hein. Et donc, l'autre mot, Eucharistie, qui va rester de manière technique, dit bien, derrière le mot, c'est rendre grâce. Ça veut dire rendre grâce. Et donc, du coup, ça correspond à ce que dit Justin, hein. C'est-à-dire que le jour où je participe à l'Eucharistie au milieu des autres fidèles rassemblés, tous, en tant que corps ecclésial, nous rendons grâce, nous disons merci à Dieu le Père pour le don qu'il a fait pour nous du Christ. Parce que c'est par le Christ que nous avons été, que nous sommes sauvés, que notre corps peut ressusciter un jour. Donc du coup, faire Eucharistie, le mot est très riche, hein, faire Eucharistie, c'est rendre grâce de tout ce que Dieu a fait pour nous par le Christ. Et les mots, attention, je vous fais remarquer que le mot Eucharistie, avant d'être chrétien, est un mot de la langue grecque. Eh bien, effectivement, les chrétiens reconnaissent dans ce mot le bon mot pour dire ce qu'ils font. Ce mot, si je peux dire, tombe en désuétude à un moment donné. Hein? Un peu comme l'initiation chrétienne, on l'a vu, tombe aux oubliettes à partir du VIe siècle. Et dans la tradition latine, je dis bien dans la tradition latine, le mot qui va être plus important, on y reviendra, c'est le mot messe. Mais on y reviendra. On vous dira tout. On vous dira tout. Et donc, les autres mots aussi liés, qui étaient employés par les théologiens chrétiens, je fais référence à Irénée à l'époque, mais on pourrait dire Tertullien, Cyprien, les grands théologiens de l'Afrique du Nord du IIIe siècle, eh bien, emploient d'autres mots. Regardez, par exemple, le mot « offrande ». Pour dire l'Eucharistie, et là je vous ai mis, oui j'ai oublié de vous le dire, vous avez vraiment, j'ai pris les mots à partir des textes, hein, donc du coup, oblatio en latin, anaphora en grec, prosphora en grec, kourobo en syriaque, en araméen. Tous ces mots veulent dire offrande. Pourquoi? C'est très intéressant. Pourquoi on appelait l'Eucharistie offrande? Parce qu'on pensait, on était conscient, je dirais plutôt, qu'on ne pouvait pas faire l'Eucharistie si moi, fidèle, n'apportais pas mon offrande à l'Église. Il fallait mon offrande pour participer. Quand je dis l'offrande, c'est le pain. Hein? Chacun apportait son pain à l'Eucharistie. Qu'après, on mélangeait ou on donnait aux pauvres ce qu'on n'employait pas. Bien, ça veut dire ça, j'offre matériellement ce que après je vais recevoir, transformer, eucharistier, hein, dans la communion. Mais offrande aussi, vous voyez l'autre versant, l'offrande me fait penser à l'offrande que le Christ a fait de lui-même. Et du coup, l'Eucharistie est cette double offrande. Par mon offrande, je signifie, je manifeste, je participe à l'offrande que le Christ a fait de lui-même. L'autre mot important, sacrifice. Sacrifice. À nouveau, je vois que le mot sacrifice est assez difficile à entendre aujourd'hui, hein, puis parfois peut-être connoté de manière un peu négative. Mais remarquez que quand les chrétiens l'emploient, quand ils commencent à naître, justement ils disent « nous faisons un sacrifice pendant l'Eucharistie, mais ce n'est pas le sacrifice que vous, contemporains aux chrétiens, vous faites, c'est-à-dire le sacrifice d'animaux, parfois d'enfants, hein, il pouvait arriver dans certaines cultures, hein, mais nous faisons mémoire du sacrifice du Christ sur la croix, son don par la croix à la résurrection, mais ce n'est pas que nous répétons ce sacrifice, ce n'est pas un sacrifice sanglant, ce n'est pas que nous allons faire des formules magiques pour le remettre en marche. Nous en faisons mémoire. Et donc, du coup, nous nous référons à ce moment spécifique. On pourrait dire que le mot sacrifice fait de pendant à ce que l'on ne voit pas dans la scène. Vous le voyez? C'est-à-dire, Jésus annonce ce qui arrivera, Il dit, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang répandu pour vous. Les apôtres ne comprennent pas qu'est-ce que ça voulait dire quand il le dit. Ils comprennent après, quand ils voient qu'il a été cloué à la croix et qu'il a effectivement disloqué son corps et qu'il a répandu son sang. Donc il y a là dans le mot sacrifice cet aspect, je dirais plutôt christologique, lié au Christ, mais il y a aussi l'idée que justement on rend à Dieu un culte, c'est-à-dire par Jésus, hein, par Jésus. L'autre mot est action, c'est-à-dire à nouveau le mot qu'on retrouve dans les livres liturgiques, notamment en latin, hein, actio agere, ordo agendi. Ça commençait, c'était le titre pour commencer les indications pour célébrer l'Eucharistie dans le monde latin. Qu'est-ce que ça nous rappelle le mot action ? Ça nous rappelle que l'Eucharistie n'est pas quelque chose de statique. Hein? L'Eucharistie est quelque chose qui nous appelle à cette dynamique du don du Christ, du don de nous-mêmes, de la responsabilité que nous avons des autres, le pôle éthique dont je parlais, hein, et elle, quelque part, résume toute l'histoire du salut. C'est une action qui est comme le sceau de toute l'histoire du salut, quelque part. Elle résume au sens que tout converge vers le don du Christ. Les deux autres mots sont à nouveau plutôt, entre guillemets, ou techniques. On appelait parfois la messe collecta ou synaxis, c'est-à-dire se réunir, parce qu'on l'a vu, l'Eucharistie était le moment où on se réunissait. Si on se réunissait, c'était entre autres, principalement, mais entre autres, pour célébrer l'Eucharistie. Et l'autre, le jour du Seigneur, Dominicum Curiae, c'était l'Eucharistie prend le nom du jour où on la célèbre, parce que c'est le jour du Seigneur que l'on célèbre l'Eucharistie. Les autres mots sont, là je vous ai mis les deux mots dans le monde occidental, missa, et dans le monde oriental, l'Occident, latin, appellera l'Eucharistie désormais messe. Je vais y revenir pour vous faire comprendre d'où ça vient. Et les orthodoxes, encore aujourd'hui, appellent, parfois ils sont surpris quand nous employons le mot liturgie, parce que pour eux, liturgie, ça veut dire messe, l'Eucharistie. Allez. Alors, je vous ai déjà raconté qu'est-ce que ça veut dire liturgie. Action du peuple. Laos, lei, urgia. Action, action du peuple. Et puis regardez, ah oui, je vous disais, d'où ça vient le mot messe? Le mot messe était le mot qui était employé dans les grandes réunions, dans une réunion par exemple d'une ville, quand on convoquait le peuple au forum, par exemple, dans le forum d'une ville, romaine naturellement, et qu'est-ce qu'on disait quand il fallait renvoyer les gens, quand la réunion était finie, on disait missa ou ite, missa est, ite, allez, c'est fini. C'était un mot technique pour terminer une réunion. Les chrétiens qui se rappellent qui se réunissent pour célébrer l'Eucharistie, quand il faut renvoyer les gens, quand il faut renvoyer les fidèles, celui qui préside l'Eucharistie dira « Ite, missa est, c'est fini !» Ça y est. Et cela rentre dans le vocabulaire de la messe. Et donc, le mot qui était employé pour renvoyer les fidèles devient le mot pour la messe tout entière, le mot de la fin devient le mot pour le tout. c'est assez classique ça, hein, de nommer que le mot d'une partie devient le mot du tout. Et donc, on a tous les mots, tout le vocabulaire de cette période, vous l'avez. Hein. Messe, ça veut dire cela. Collecte, c'est le mot qu'on donnait à la prière d'ouverture, la première prière, on l'appelle collecte. Pourquoi ? Parce qu'on collectait, d'abord, parce que les fidèles se rassemblaient. Donc, les fidèles se réunissaient, hein, formaient, ils étaient collectés, on pourrait dire. Mais aussi parce qu'on prenait l'habitude de dire pourquoi on se réunissait. Donc, on disait le motif de la réunion, nous collecte. Le mot offertoire, qui au début a un sens, parce que les gens apportaient les offrandes. Quand va tomber en désuétude le fait que les gens, ou plutôt quand on empêche aux gens d'apporter les dons, c'est plutôt vrai ça, eh bien le mot reste dans le formulaire de la messe, mais à ce moment-là, des offrandes, mais sans l'action, vous voyez. Mais aujourd'hui, on l'a redécouvert. Secrète, c'est un mot que vous trouvez dans les termes latins, dans les missels romains, hein, de latin. Ben, c'était justement la prière que l'on faisait au moment de l'offertoire, de l'apport des offrandes. Et quand on apportait les offrandes, dit bien un texte, un document latin, les diacres triaient, discernaient, sécréter ceux qui servaient pour l'Eucharistie et ceux qui servaient pour les pauvres. Et donc, le mot « secrète » est devenu et employé pour ça. Mais, le jour où on dit dans les livres, à partir de ce moment, seul le prêtre peut dire les prières et le dira à voix basse, eh bien, le mot prend la signification de faire silence, qu'on ne peut pas révéler, vous voyez, c'est à partir du 8e siècle. Et puis le mot canon, on ne l'emploie pas que pour la bière, mais on l'emploie aussi pour la messe, je vous fais remarquer. On l'emploie pour dire la prière eucharistique. Canon, vous la comprenez bien, ça vient du dé de la loi. Pour prier, il faut une loi, au sens qu'il y a, une structure pour prier. Je voudrais maintenant vous montrer, vous introduire à un texte que vous pourrez lire vous-même. Hein. C'est le texte des Dombes. Ou plutôt, faisons comme ça. Je vous propose une chose. Parce que je voulais vous montrer la bibliographie. Comme ça, pendant les deux semaines, si vous voulez, vous pouvez voir ce que vous pouvez lire. Mais,
excusez-moi.
Oui, mais Manuel, allez-y.
Je n'ai pas compris secrète, en fait.
Secrète, c'était le moment dans l'Eucharistie où les fidèles apportaient leurs dons. Ça y est?
Oui.
Et donc, des documents de latin du 7e siècle disent que quand les fidèles, hommes et femmes, apportaient leurs dons, les diacres trier ses dons. Qu'est-ce que ça veut dire trier? Il disait, cela sera donné aux pauvres, cela sera donné, parce que pas tout pouvait être employé pour l'Eucharistie, ça y est. Et donc, ça veut dire sécréter, discerner, mettre à côté, ça y est.
D'accord.
Et puis, quand l'action du peuple est tombée en désuétude, ou qu'on a empêché au peuple d'apporter leur offrande, ça va devenir la prière du prêtre à ce moment-là, mais dite en silence.
D'accord. Et ça a donné le mot secret en général?
Et après, non, absolument pas. Le mot vient du latin, donc du coup, ça existait déjà. Mais ça va donner à ce moment de la messe un côté un peu secret, justement. Hein.
D'accord, mais on ne l'utilise pas dans le...
Non, c'est dans le vocabulaire latin, effectivement. Mais c'était pour vous dire comment les mots peuvent changer au cours de l'histoire, hein, et qui sont liés à des actions. C'est plus clair, Emmanuel ?
En fait, je ne comprends pas. Je suis désolée. Hein.
Allez-y, allez-y.
Je comprends toujours pas. En fait, autant offertoire, bon, je comprends le canon parce que ça a une signification dans la messe actuelle, etc. Autant secrète, je ne vois pas ce que ça vient faire là, en fait.
Oui, parce que c'est un mot que nous n'employons plus pour dire qu'on discerne, qu'on dit secréter des choses, non ?
C'est secréter une substance, quoi. On secrète une substance.
Voilà. Et donc, du coup, là, ce sont les offrandes qu'on apporte des fidèles, hein, et on les discernait, on les mettait à côté, et c'était une action vraie, hein, qu'on faisait, et qui va tomber en désuétude. Hein,
d'accord.
Au moment des offrandes.
D'accord. Merci.
Voilà. Donc, je vous disais, regardez le... On peut le regarder ensemble. J'aimerais que pour la prochaine fois ou pendant les vacances, vous avez 2 semaines pour le faire. Vous lisiez comme une sorte de lecture, il est presque spirituel, ce texte des Dombes. Pourquoi j'ai mis ce texte des Dombes ? Le groupe des Dombes, c'est un groupe œcuménique qui se réunit depuis les années 30. Vous voyez ? Avant même le concile, protestants et catholiques se réunissent, je ne sais pas si encore aujourd'hui, mais au moins le lieu de rencontre initial, et puis ça continuait jusqu'à il y a quelques années, c'était les Dombes. C'est un monastère trappiste. Et donc, ils se réunissaient pour débattre entre eux, pour faire avancer l'unité des chrétiens. Ils ont produit un texte sur l'Eucharistie que je vous ai mis, que vous avez reçu. Vous voyez, il est là. Pourquoi je le propose toujours en cours au CIF ? Parce que d'une part, ça a une portée œcuménique, c'est-à-dire que des catholiques et des protestants essayent de dire ensemble leur foi, leur perception de l'Eucharistie, et puis parce que vraiment il est bien structuré, c'est vraiment un texte théologique. Et donc, à nouveau, il essaie de parler à nous. C'est un texte pas qui dit « nous les protestants, vous les catholiques ». C'est nous, chrétiens. Et donc, du coup, tous les aspects théologiques que vous voudriez creuser du point de vue théologique et sont là. Ce que je vous propose, je fais ce pacte de lecture avec vous, vous le lisez, et puis très rapidement, non, vous le lisez. Si vous avez des questions, vous me l'envoyez par email. Si vous ne voulez pas me l'envoyer par email, vous me les posez directement la prochaine fois. Nous commencerons 10 minutes à parler de ça et puis nous commençons la réconciliation. Et on regardera la bibliographie ensemble la prochaine fois. Ça vous va? Ça va?
Oui, parfait.
Merci beaucoup.
Écoutez, je vous remercie à vous pour la patience que vous avez.
C'est pas difficile, frère.
Et puis, je vous souhaite, je sais pas qu'est-ce que vous faites de vos vacances, mais reposez-vous quand même. Peut-être qu'il y en a qui peuvent le faire davantage qui moins, mais profitez-en. Et ce texte, vraiment, si vous avez la possibilité, par exemple, un dimanche, vous avez 2 dimanches, lisez-le, c'est très riche. C'est très riche. Il va vous faire entrer dans l'Eucharistie, puis penser qu'il est écrit par des protestants et des catholiques, c'est très rassurant sur notre avenir, hein, face au témoignage chrétien.
On va essayer.
Voilà.
Les chicoufs vont nous gêner.
Je compte sur vous, hein, Denis. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir.